5, 4, 3, 2, 1, 0.
Ici Max Lutande et bienvenue à ce 4e épisode du Pro Shop. Cette semaine au Pro Shop, un paquet de sujets chauds sur lesquels on va se prononcer, dont les playoffs de la Ligue nationale de hockey, quand même assez important présentement, les séries entre les Red Wings de Détroit et les Blackhawks de Chicago, entre les Sharks de San Jose et les Kings de Los Angeles. Il y a aussi le fait que Patrick Roy est maintenant le nouvel entraîneur de l'Avalanche du Colorado. Et on va aussi débattre sur les possibles futures embauches concernant les entraîneurs de la Ligue nationale de hockey, car il y a plusieurs entraîneurs qui ont perdu leur poste dans les dernières semaines. Mais avant, tu sais, d'aborder tout ça, je vais aller rejoindre mes co-animateurs préférés, les Brunette Bros. Benoît, comment ça va?
Ça va super bien, mon Max, et toi?
Moi, ça va top shape. Je suis en feu, comme d'habitude. Très content d'être ici.
J'ai vraiment hâte à ce soir, la dernière partie entre les Red Wings de Détroit et les Blackhawks de Chicago.
Le 7e match.
Ouais, c'est toujours bon, une 7e partie. C'est là que tu délimines les hommes des enfants.
Oh, j'aime ça. C'est bien. Ben, effectivement, pendant qu'on va faire la balado-diffusion, on va surveiller ça de près, mon cher Ben. Simon, comment ça va?
Ça va super bien. Un petit mal de tête ce matin, mais tout s'arrange. Puis là, en plus, un beau petit soleil qui tape sur ma fenêtre en ce moment, juste pour le coucher, ce qu'on n'a pas vu de la journée par ici, à Richelieu.
All right. Good. Fait que les gars, je vois que vous êtes prêts, je vois que vous êtes motivés. Vous êtes dans l'attente du 7e match entre Chicago et Détroit. Mais avant ça, comme d'habitude, on va aller faire un petit tour au premier segment de l'émission qui se nomme les Top Net! Hey! All right, les gars, cette semaine, mon premier Top Net, je veux absolument parler de la remontée des Blackhawks de Chicago. Les trois buts, là, c'était 2-1 pour les Red Wings, puis les Blackhawks, bing, bang, bouf, trois buts, puis ils ont mis le match hors des portées contre Détroit. En fait, ce que je veux mentionner, là, c'est que les trois buts se sont passés... en fait, tous les jeux partaient à propos sur le bord de la ronde, OK? Je m'excuse, je me sens farché un petit peu dans mes mots. Mais ce que je veux dire, c'est que les jeux ont débuté là. Sur la rampe, il y avait le long de la rampe, il y avait des batailles à un contre un. Puis chaque fois, ben, c'est les Blackhawks qui en sont sortis gagnants. Je veux dire, Détroit, je les aime beaucoup. Je les ai pris. Je crois qu'ils vont quand même gagner ce soir. Puis ils ont gagné ça en 7. Mais des fois, Détroit sont super beaux à voir jouer. Ils ont une bonne chimie d'équipe, tout ça. Ça patine. Puis tu sais, en zone centrale, ils sont très, très forts. Mais le long des rampes, des fois, ils sont un petit peu frileux, comme dirait l'autre. Puis je crois que c'est ça qui a porté fruit par rapport à Chicago. C'est ça qui nous a menés à la victoire. Alors, les gars de Chicago étaient décidés à ne pas se laisser abattre. Et c'est pour ça qu'ils ont gagné.
Ben moi, je vais y aller un peu dans la même veine pour mon premier top net. Je vais parler de Jonathan Toews. Jonathan Toews, dans la 4e partie, il a pris 3 pénalités stupides en ligne durant la 2e période. Ça l'a donné de momentum aux Red Wings de Détroit pour gagner la partie. Mais cependant, il rebondit dans le 5e puis le 6e partie. Il y a eu un but, 2 passes. Il était tout le temps en échec avant. Il volait la rondelle aux autres joueurs. Il y a eu son premier but en série. Il n'en avait pas marqué durant la première ronde. Il a prouvé que c'était un grand leader, selon moi, t'sais. Parce que durant la 4e partie, il s'en voulait vraiment beaucoup. Même que je pense que c'était Duncan T qui est venu au banc des pénalités pour venir remonter le moral parce que il avait jamais vu Jonathan Toews être comme ça. Puis il a comme pris son rôle de capitaine à cœur. Puis il a remontré que c'était lui le vrai leader de cette équipe-là. Puis j'ai hâte de voir sa performance ce soir durant la 7e partie.
Ben, on dit jamais 203. Moi aussi, je vais vous parler de Chicago. Je pense qu'on peut pas passer à côté. Ils font quand même une excellente remontée en ce moment. Je crois que le caractère de Chicago se démontre justement dans ces dernières parties-là. C'est une équipe qui a seulement perdu 7 parties en 48 parties au total dans la saison. Donc, c'était dur à croire qu'après en avoir perdu 3 de suite, ils n'allaient pas se relever. Je pense qu'ils méritent un meilleur sort pour finir la saison. Mais finir, c'est pas encore fini en espérant. On va voir ce soir. Mais c'est ça, je pense qu'ils méritaient les deux victoires qu'ils ont eues, puis les belles parties qu'ils ont jouées. Je pense qu'ils les méritaient, puis c'est les vrais Chicago de cette année, 2013, qui sont ressortis dans ces parties-là. Là. Pas ceux qui ont perdu les trois parties de suite, qui se sont un peu laissés tomber. Donc, je suis très content, puis je pense que c'est tout en leur honneur en ce moment-là de montrer autant de caractère. Là.
Good. Moi, Simon, je vais changer de série. Hein. Je vais m'en aller avec Los Angeles et San Jose. Écoutez, comment, pour ceux qui ont suivi la série entre les Kings et les Sharks, puis ceux qui ont écouté la partie d'hier, comment ne pas parler de Jonathan Quick? Je veux dire, je ne sais pas si certains ont porté attention. Là, tu sais, souvent, je pense que les gens parlent des gardiens de but dans la Ligue nationale de hockey, puis des fois, j'ai l'impression qu'on est juste capable de dire « Bon, ça, c'est un bon, ça, c'est une belle arrêt, puis ça, c'est un but faible. » Mais regardez à quel point Jonathan Quick est compétitif à l'os. Regardez aussi qu'il se place quand il fait ses arrêts. Il est sorti carrément de son demi-cercle. Il défie les lancers. Puis quand un gardien là, il sort de son demi-cercle comme ça, là, ça veut dire « Hey, oui, amenez-en de la rondelle, là, moi, les arrêter, j'ai pas peur, je vais être là pour ça. » Puis regardez à quel point la manière qu'il bouge son haut de corps et sa tête. Tu sais, je veux dire, souvent on dit que la tête puis le haut du corps pour un gardien de but, c'est gouvernail. Bien, il va aller chercher les rondelles, il va les trouver avec ses yeux, puis il est proactif. C'est juste ça que je l'ai mentionné sur Jonathan Quick. La semaine passée, je disais que Tuukka Rask et Quick étaient les meilleurs gardiens. Et je crois que avec la partie d'hier et sa série au complet, Jonathan Quick ne me fait pas mentir présentement.
J'aimerais avoir ton opinion là-dessus. Est-ce que tu crois que Jonathan Quick est le gardien le plus athlétique de la Ligue? Et crois-tu que, sans vouloir faire un petit jeu de mots, que c'est le plus rapide à se déplacer de poteau en poteau?
Je te dirais que oui. Je serais curieux de chronométrer, mais de faire comme une espèce de petit challenge entre les plusieurs gardiens de but de la Ligue nationale. Mais présentement, ceux qui m'ont étonné le plus, c'est Jonathan Quick. Puis je dois t'avouer là, que le deuxième gardien de but des Bruins de Boston, je l'ai vu garder les buts deux fois. Là. Puis ce gars-là est hyper agile sur ses patins. C'est Anton Khudobin. Puis écoute, il n'y a pas de contrat l'année prochaine. Mais je sais pas pourquoi ce gars-là, je le trouve hyper rapide puis hyper... agile, mais je te dirais que oui, je pense que Jonathan Quick c'est le plus rapide des gardiens de but pour ses déplacements poteau à poteau.
Ok, sans vouloir changer de série, je vais y aller avec l'autre équipe. Je vais donner une petite mention d'honneur à Joe Thornton. T'sais, il a perdu, mais je pense qu'il a été vraiment dominant. Pas je pense que il a prouvé durant cette série-là que c'était le joueur le plus dominant des Sharks. Même Dustin Brown, il a fait une mention d'honneur pour dire que c'était le joueur le plus dangereux des Sharks. Quand il était en attaque, il y avait de la misère à tout le monde à l'arrêter. Joe Thornton, il sert de son gros gabarit, mais vraiment bien. Il sait comment s'en servir pour aller au filet, puis distribuer la rondelle à des joueurs qui sont bien placés. T'sais, c'est sûr qu'on a tout le temps voulu qu'il marque plus de buts, mais bon, c'est pas vraiment son style de jeu. Mais on peut pas lui demander de faire quelque chose qu'il est pas à l'aise à faire, sûrement. On le connaît pas personnellement, donc c'est une petite mention d'honneur à Joe Thornton comme ça que je pense que il mérite pas vraiment la mention de choker que tout le monde lui donne.
Bien d'accord avec
toi. Ouais, moi aussi je suis d'accord. C'est un joueur que j'ai toujours bien aimé. Moi, malheureusement, même si j'étais le seul à prendre pour les Sharks, ma mention d'honneur va retourner vers les Kings, que j'ai pas le choix d'en parler. Ils ont joué une super belle série, même si ça s'est rendu à la 7e. C'était... chaque partie, ça pouvait aller d'un côté de l'autre. Ça a même terminé avec seulement un but de différence. Mais je voyais surtout sur un héros obscur que, dans le fond, c'est quelqu'un qui est super bon en désavantage numérique. C'est Trevor Lewis. Dans le fond, leur désavantage numérique a limité en 7 parties. Dans le fond, l'avantage numérique des Sharks a seulement 4 buts. Eux qui en avaient fait 7 en 4 parties dans la série d'avant. Donc, je pense que c'est un des joueurs qui a joué un gros avec Jonathan Quick, assurément. Mais Trevor Lewis, quelqu'un qui joue un très gros rôle dans le désavantage numérique. C'est une partie super importante, surtout dans les séries. Puis c'est même lui aussi qui a fait le but gagnant dans la deuxième partie, dans un moment où est-ce que c'était beaucoup... c'était assez dur pour Los Angeles. Il restait 2 minutes et ils ont fait 2 buts en 30 secondes, même pas. Donc, ça l'a sauvé un peu la partie. C'est encore lui qui a fait ce but-là. Fait qu'autant à l'attaque qu'à la défense, excellent joueur. Je pense qu'il va jouer. Ouais, mais c'est
non,
ça.
Vas-y,
prochaine ronde. Non, mais prochaine ronde, je pense qu'il va falloir le regarder comme il faut. C'est sûr que c'est juste des avantages numériques, mais les joueurs adverses, il va falloir qu'ils regardent. Exactement.
All right. Écoute, moi, dans le fond, Simon, je suis tout à fait d'accord avec toi. en fait, je vais juste renchérir un peu rapidement sur ton point. Dans le fond, mon prochain top net, c'est que dans le fond, les Kings, tout le monde contribue. Je pense que c'est ça la force des Kings. Tu sais, je crois que c'est pas l'équipe avec le plus de caractère, mais par contre, celle avec la meilleure éthique de travail, puis celle où c'est que tout le monde dans l'équipe a un rôle très précis, puis tout le monde est capable de contribuer. Mais tu sais, pas juste, tu sais, c'est facile de dire « Ah, oh, tout le monde contribue », mais je veux dire, quand on écoute des matchs, on va entendre les noms de tout le monde pour dire « Ah, oh, il a fait tel bon jeu, Williams a fait un bon jeu, oh, quelle passe de Kopitar, quelle passe, je veux dire, de Dustin Brown ». On entend chacun des noms des joueurs, puis ça, c'est bon signe. Tu sais, ça veut juste dire que tout le monde fait son travail de manière égale.
L'attaque est diversifiée.
Exactement.
OK. Moi, pour mon troisième top net, je vais y aller avec Nathan MacKinnon, Jonathan Drouin et Seth Jones. Les trois joueurs, ils ont joué dans la partie finale de la Coupe Memorial. C'était la première fois dans l'histoire du repêchage que trois joueurs qui étaient rankés, 1, 2, 3, s'affrontaient dans cette finale-là. Enfin, c'était vraiment très intéressant à regarder comme partie parce qu'on a pu voir qui se démarquait du lot. Personnellement, je trouve que Nathan MacKinnon a prouvé que ça allait être le premier choix au repêchage. Il a fini le tournoi avec 13 points en 4 matchs. C'est vraiment excellent parce que si on peut le comparer un peu à Sidney Crosby en 2005, Crosby a eu 11 points, mais en 5 matchs, c'est une partie de plus et 2 points de moins. Nathan Jones, c'est un joueur vraiment explosif. Il a des mains vraiment excellentes. Il est combatif pour aller vers la rondelle. Il se replie en défense pour. Il veut être un joueur d'impact. Il veut prouver qu'il est complet. Puis il est en train de le prouver à 17 ans. Il a été, je pense, le joueur le plus dominant de la ligue. Parce que Jonathan Drouin a gagné le titre de joueur de l'année dans la CHL. Mais moi, personnellement, je trouve que MacKinnon était meilleur de toutes les fois que je les ai vus jouer. C'est sûr que Drouin a eu un meilleur. Points par game, un average, une moyenne de points par game était plus élevé, mais MacKinnon a été blessé durant l'année, donc il faut laisser un peu de répit. Il a tout le temps été regardé depuis qu'il est jeune, donc je pense qu'il va sortir premier cette année.
Good, ben moi aussi je vais parler de joueurs peut-être un peu plus jeunes, mais c'est ça dans le fond. La SHL, je vais vous parler de la Coupe Kelly qui a été remportée par les Reading Royals. J'ai un peu de la misère à dire ce nom-là, mais bon. ben, c'est juste féliciter, il y a quand même 4 Québécois qui sont dans l'équipe, dont 2 réguliers, qui sont Yannick Tiffu, qui a été le meilleur pointeur de toutes les séries, dans le fond, et Joël Champagne. Puis sinon, 2 joueurs de soutien, Dominique Jalbert et Julien Caillé. Donc, les 4 Québécois du coin, je pense que c'est une des équipes de la SHL qui a le plus de Québécois. Donc, c'est eux qui ont gagné la Coupe, tant mieux. Puis sinon, une petite parenthèse aussi sur la Coupe Calder, la Ligue américaine, dans le fond, qui a encore 4 équipes en lice pour gagner la Coupe. Et là-dedans, il y a 2 équipes surtout qui ont des noms assez connus, dont Cédric Desjardins et l'autre équipe qui a Yann Danny, 2 anciens gardiens qu'on avait dans nos ligues mineures, puis même qui ont fait quelques parties. Je pense à Yann Danny qui a déjà été notre 2e gardien à Montréal. Donc, c'est 2 joueurs québécois qui tirent leur boss encore, puis ils vont travailler dans la Ligue américaine pour essayer de se tailler un poste par après. Donc, c'est ça. Ben, c'est ça, c'est le fun d'avoir des Québécois. Puis même dans les équipes, il y a plusieurs Québécois. Je pense que dans les 4 équipes, il y a au moins un Québécois, dont Philippe Paradis, Jean-Philippe Côté. Puis sinon, même une autre petite parenthèse pour un Québécois, mais Jonathan Chichou qui est aussi en lice. Il est dans la même équipe que Yann Denny, Oklahoma City. Dans le fond, il est allé jouer dans la Ligue américaine, puis il essaie de rouler sa bosse, pareil comme qu'on a déjà parlé dernièrement avec Wade Redden, qu'il n'a pas eu peur de descendre en bas pour prouver qu'il n'avait encore dedans, puis après ça, peut-être avoir un contrat ou au moins un essai dans une équipe.
Reculer pour mieux sauter.
Exactement.
Pour reculer pour mieux avancer, en tout cas, je me rappelle plus du proverbe, mais je pensais quelque chose.
Ben, quand on est une. Pour lancer une flèche, il faut la tirer vers l'arrière pour la lancer à sa cible. Donc, il ne faut pas avoir peur de reculer pour se rendre à son but.
Que de poétrie. Très bon.
C'est très beau.
Moi, en terminant avec mon dernier top net, là, je vais juste y aller vite. L'ambiance dans l'aréna de Détroit dans le dernier match, c'était incroyable. Juste le petit rituel d'avant-match, tout ça, avec le monsieur qui brandit la pieuvre au bout de ses bras, j'adorais ça. Puis sur le premier but des Hawks, La pénalité à Nyquist, c'est un surnom. Les Hawks ont, de manière délibérée, projeté le disque vers le banc des Red Wings pour que ceux-ci touchent à la rondelle pour qu'il y ait une pénalité pour trop de joueurs sur la glace. Alors, je vais juste mentionner ça. J'ai trouvé ça excellent. Fait que c'était mon dernier top net pour ce segment.
Moi, pour mon dernier top net, je vais juste faire une petite mention pour Justin William. Il a eu deux buts dans sa partie, la Game 7 contre les Sharks de San Jose. Mais ce que pas beaucoup de monde sait, c'est que c'était un record, dans le fond. C'est que Justin William, c'est le premier joueur à faire un but dans chacun de ses 4 premiers 16e matchs.
Oh!
Donc, il y a 5 buts en 4 16e matchs. Je pense que c'est quand même une mention honorable à souligner.
Un gamer!
Donc on peut le surnommer Monsieur 7ème partie. Partie.
Ouais, Monsieur 7ème partie.
C'est excellent. Moi aussi, je vais juste faire un gros thumbs up à Patrick Roy, dans le fond, qu'il a été nominé à Colorado, donc c'est vraiment juste. Je sais qu'on va en parler plus tantôt, mais je veux juste en parler encore une fois, un Québécois, puis tant mieux. Il mérite, c'est pas volé. Il avait eu l'opportunité il y a 3 ans, je crois. Il aimait mieux rester à coacher ses deux enfants, ce qui est très normal. Puis là, je pense qu'il est prêt. Donc, on va en parler plus tard, mais je voulais juste que ça sorte de mon corps un peu avant pour un peu préparer le terrain.
Et puis, j'ai assez hâte qu'on en parle, ça. T'as pas idée, mon cher Simon. J'ai très hâte qu'on en parle.
On arrive.
Mais avant d'en parler, hein, on va passer deuxième segment d'émission. Les Softies! Premier sorti cette semaine, les gars. Moi, c'est le tir de pénalité accordé à Frolic. Puis là, attention, ne me lancez pas de rush immédiatement. OK, attendez, laissez-moi me défendre un petit peu. Sur Twitter, là, tout le monde se débattait là, à savoir si c'était là, l'arbitre aurait dû donner un penalty shot ou non. Oui, l'arbitre avait toutes les bonnes raisons de donner un penalty shot. Par contre, ce que j'ai pas aimé, c'est que tu es dans un 7e match de série. Puis le ref, l'arbitre, excusez-moi, immédiatement, il a quasiment amené la puck au centre immédiatement. Puis, ah ouais, go, on fait ça bien, bien rapidement. Je m'excuse, mais si t'es gardien de but, là déjà, tu te dis, ben là, comment ça qu'un. Tu sais, mettons que t'es dans l'ambiguïté un petit peu, là, puis tu te dis, ben voyons, comment ça qu'un tir de pénalité, vous méritez pas d'avoir un tir de pénalité là-dessus. Il a juste accroché un peu les mains, puis en tout cas. Puis là, ça se fait tout de suite. Fait que c'est sûr que t'es dans un état négatif, puis là, tu te dis, ben voyons, ça n'a pas de bon sens, puis t'as pas le temps vraiment de te reconcentrer tout de suite sur le lancer qui s'en vient, puis. En tout cas, ça passe, puis là, ça fait le but arrive. Ce que j'ai trouvé, ce que l'arbitre aurait dû faire, c'est au moins prendre une petite pause, là, pas 45 secondes, mais juste au moins s'assurer d'aller voir le gardien, t'es-tu prêt? Ou demander à son juge de ligne d'aller voir le gardien, puis demander s'il est prêt. Puis après ça, demander à Frolic s'il est prêt, puis là, faire le lancer de pénalité. Je pense que ça aurait remis les états d'esprit à zéro, puis Jimmy Howard aurait pu plus facilement se concentrer sur le tir de pénalité, puis au lieu de voir ça arriver super rapidement, là, comme si on était super pressé, puis être dans un mauvais état pour mentalement pour arrêter le tir qui s'en venait.
Moi, pour mon premier softies, je vais y aller avec le jeu de puissance des Sharks de San Jose. Les Sharks, ils ont creusé leur propre tombe, dans mon opinion, dans le sens que ils n'ont pas compté de but en avantage numérique à Los Angeles durant toute la série, durant les 4 parties. Durant la 7e partie, ils ont été 0 en 2, et durant la série au total, ils ont été 0 en 12 à Los Angeles. Je trouve que c'est inacceptable quand t'es en série. C'est une guerre d'opportunité, c'est une guerre de tranchées même. Tu peux pas te permettre, quand on te donne cet avantage-là, de manquer ta chance, mais 12 fois quand t'es à l'extérieur, tu sais. Quand t'es à domicile, je pense que c'est un peu plus facile de compter parce que t'as l'avantage du line-up. C'est toi qui peux décider quel joueur tu vas mettre sur la glace contre quel élément de l'équipe adverse. Mais à l'extérieur, il faut vraiment que tu prennes cette chance de passer un but. Puis les Sharks n'ont pas été capables de le faire, puis ils ont été éliminés. Je pense que tout s'explique là.
Ouais, tout s'explique, je pense, parce que Trevor Lewis était là. C'est lui qui a fait ça. C'est grâce à lui. C'est...
Le vrai
ça comme ça, là, c'est non, mais sinon, moi, je vais y aller peut-être avec quelque chose qui m'a dérangé dans la dernière partie, Chicago-Détroit. C'est à la fin de la partie, Chicago menait par trois buts, c'est bien ça? Non, deux buts. Il menait par deux buts à la fin. Puis, dans le fond, il restait 1 minute 30 à jouer. Henrik Zetterberg prend une pénalité. Il fait trébucher un joueur. Seulement 22 secondes plus tard, quand il n'y avait pas vraiment de pression, je veux dire, on mène de 2 buts. On est en avantage numérique. Pas obligé de jouer très intense. Le but, c'est vraiment de d'écouler les secondes qui restent. Marianne Ossa a essayé d'aller voler la rondelle sur le bord de la bande, peut-être un peu trop intensément, et a eu une pénalité pour justement avoir fait trébucher lui aussi quelqu'un, un joueur adverse. Donc c'est ça, il a pris une pénalité, que c'était quand même une situation assez... disons que... ben c'est ça, tu sais, Détroit avait déjà 3 victoires, je veux dire, Chicago était sur le bord du gouffre depuis déjà 2 parties. Puis là, il menait par 2 buts. La moindre des choses, c'est d'essayer d'être discipliné puis pas aller mettre son équipe dans le trouble. Et justement, c'est ce que Marianne Ossa a fait. C'était 4 contre 4. Détroit ont enlevé leur gardien. C'était rendu 5 contre 4. Et seulement 9 secondes après la pénalité, Bruner, un joueur que Benoît a parlé lors du premier podcast, un excellent joueur, est allé faire un but justement pour faire mal à Chicago et la pénalité de Marianne Ossa. Puis après ça, ben, c'était la minute la plus intense, je pense, dans leur série. Hein. La série des 3 Chicago. Et Chicago ont réussi à maintenir le fort, mais ça leur aurait pu coûter très, très cher, cette pénalité.
Moi, Simon, je vais aller rejoindre ce que ton frère parlait tantôt à propos des Sharks. Je m'excuse de ne pas se faire un super segue avec les Blackhawks, mais il faut absolument que je parle de ce que Ben a parlé. Puis tu sais, Ben, tu parlais du jeu de puissance des Sharks de San Jose, mais ouais. Moi, je crois que c'est la tout simplement, là, on va se le dire carrément, c'est la fin du cycle pour les Sharks de San Jose. La fenêtre, selon moi, par rapport à la Coupe Stanley, est définitivement fermée pour un maudit bon bout de temps. Puis je crois que les Sharks ont fait des mauvais moves par rapport à leur personnel, par rapport à leurs joueurs. Puis si on prend juste là, Patrick Marleau, il est 8 points avant le match d'hier. Il avait 8 points en 10 matchs, mais il était moins 1. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il a bien beau faire une passe ou un but, ça veut dire qu'il se fait compter 2 buts sur sa ligne dans le match. Je veux dire, c'est inacceptable. Puis hier, on le voyait, là, il patinait, là, puis il saignait, là, il trichait un peu comme Michael Ryder. Même genre de choses. M'avais-tu vu caché à quelque part, pas trop impliqué, pas trop combatif? Je veux dire, je comprends pas pourquoi on n'a pas échangé ce joueur-là quand il valait beaucoup puis quand les gens se battaient pour lui. On aurait pu aller chercher un premier choix ou peut-être 2 choix de deuxième ronde ou un choix de deuxième, puis un choix de troisième. Mais quand même, on serait allé chercher de la jeunesse quand ce gars-là est présentement fini puis qu'il ne rapporte plus de rien à l'équipe.
D'accord. Ben moi, pour mon deuxième softies, je vais faire un lien avec ce que Simon a dit juste avant toi. Et je trouve que les Blackhawks, il va falloir qu'ils se prouvent un peu plus dans le cercle des mises au jeu, parce que ils ont gagné 52% des mises au jeu durant la première partie, mais depuis ce temps-là, ils ont tous perdu le pourcentage, ils ont tous été en bas de 50% dans toutes les parties. Et par exemple, durant la 6e partie, Marcus Kruger des Blackhawks a été 0 en 11, qui est vraiment minable. Et je crois que Chicago peut pas se permettre de laisser Détroit dicter le ton de la partie durant la 16e. Durant la 16e partie, ils ont l'avantage de la glace. Ils doivent se permettre de gagner le duel des mises au jeu.
Surtout Ben, qu'ils ont été chanceux qu'hier, Jonathan Taves a clenché Datsuk toute la soirée. Hein?
Ouais, mais c'est surtout qu'il a clenché dans des mises au jeu importantes.
Ouais, en fin de période.
Je crois qu'il a fini à 50% quand même. Oui. Mais c'était des mises au jeu importantes qui vaut quand même plus que si t'es au milieu de la glace, disons. Mm-hmm. C'est des mises au jeu défensives, puis à l'attaque, c'est plus important, je pense. Et comme que j'ai dit, Chicago ont l'avantage de la glace ce soir. Ils doivent être capables de gagner les mises au jeu et tout de suite établir l'attaque pendant qu'ils sont contre les joueurs que l'entraîneur a voulu les jumeler contre. Et c'est ma petite opinion encore de la partie. Vous pouvez voir que je suis excité pour ce soir, j'arrête pas d'en parler.
Non, mais c'est correct, ça va être une super partie, puis moi aussi j'ai bien hâte de regarder.
Moi, je pense que ça va être la meilleure partie de l'année à présent.
Je pense que c'est 2 grosses équipes, puis justement Chicago qui ont fini premier pendant la saison, le Détroit qui leur ont montré qu'ils sont capables de tenir tête. Mais je pense qu'il y a un truc ce soir qui pourrait faire la grosse différence, c'est la 3e période. J'en ai parlé pour le Canadien qu'il était vraiment je vais utiliser le terme, oui, je vais l'utiliser, minable. Durant les troisièmes périodes, le Canadien avait fait 0 but et s'était fait compter 12 buts. Donc, dans le jargon du hockey, on dit moins 12 pour les buts contre et alloués. Puis Détroit, son deuxième à ce niveau, ils sont à moins 10 dans le fond. Ils ont fait 10 buts, mais ils en ont accordé 20. Donc, c'est quelque chose qui, dans le fond, va falloir qu'ils fassent vraiment attention ce soir. C'est peut-être de garder l'intensité autant en troisième période ou je sais pas qu'est-ce qu'ils font de mal. Je les regarde, puis il me semble qu'ils jouent quand même une bonne troisième période, mais la chance ne tourne pas de leur côté en troisième période, malheureusement pour eux. Mais peut-être qu'il va falloir qu'ils se forcent un peu pour que l'étincelle se crée. Des fois, faut manuellement un peu, ça vient pas tout seul. Faut en faire un petit peu plus. Puis on va juste prendre pour exemple ce que je parlais un peu plus tôt, la dernière partie des trois à Chicago, qu'il y avait une avance de 2-1 en début de troisième période. Et dans le fond, Chicago ont réussi à faire 3 buts. Donc ils sont allés prendre les devants 4-2. Donc je pense que c'est le meilleur exemple. Faudrait qu'ils fassent attention ce soir-là. Je pense que c'est la troisième période qui va vraiment dicter la partie, d'après moi.
Parce qu'en série, tout est une question de momentum. Puis si tu es capable de prendre le momentum de la troisième période dans un match serré, fort probablement que tu as beaucoup plus de chances de remporter le match que de perdre ce match-là. C'est bon?
C'est ce que je pense. So...
All right. Good. Avez-vous des petites choses à rajouter ou... Non?
Je pourrais peut-être dire que...
Ouais.
Pour NHL 14, présentement.
Ah oui, c'est bon ça.
Il y a un petit concours pour savoir qui va être sur la couverture. Présentement, c'est Martin Brodeur qui ont dit Sergei Bobrovski, des Flyers de Philadelphie, qui sont en finale. Et je trouve que. Ben, Martin Brodeur, il mérite peut-être pour l'ensemble de sa carrière, mais quand même, je pense qu'il va prendre sa retraite l'année prochaine ou peut-être l'autre d'après. Et Sergei Bobrovski, on ne sait même pas s'il va être encore aussi bon l'année prochaine.
Il n'y a pas d'affaire.
Il va jouer dans la Ligue nationale. T'sais, peut-être qu'il va aller dans le KHL dans un an ou deux. T'sais. Peut-être qu'il va avoir une offre vraiment lucrative là-bas que les Flyers ne pourront pas égaler. Donc, c'est ce que j'aurais à dire là-dessus.
Puis en même temps, je pense pas que le jeu s'appelle NHL All-Star, que Martin Brodeur aurait pu être un choix quand même, qui aurait pu être défendable comme choix. Mais là, en ce moment, c'est 2014. C'est qui en ce moment qui représente la ligue?
Personnellement, j'aurais mis Pavel Datsyuk, qui est un highlight reel humain. C'est justement ce qu'ils ont besoin pour vendre le jeu. T'sais. Il pourrait juste mettre ses fins dans l'intro, puis le monde serait époustouflé. Puis,
mais ouais, je suis d'accord.
Je suis d'accord.
Datsyuk ou peut-être Trevor Lewis.
Ouais,
l'autre choix. Non, c'est pas vrai. Il mérite pas ça. Pas à ce point-là.
Pas pour l'instant.
Peut-être dans le petit livret à l'intérieur.
Du moins, Jonathan Quick ou tout Corras. Puis à la limite, Jimmy Howard. Je veux dire, si tu veux prendre un gardien de but.
Je suis d'accord. Je pense que Jonathan Quick aurait été un choix assez. C'était pas nécessairement facile, mais un très bon choix. Mais c'est un peu. La réalité, quand que tu donnes le choix au public, ça va y aller avec la popularité ou même des fois, c'est du monde qui vont se dire on va voter pour telle personne, pour voter pour telle personne. Comme un match des étoiles, je pense que c'était Mike Keane qui avait été voté ou je me souviens plus trop. Non, mais c'était même pas lui, c'était quelqu'un de.
Je pense que Mike Kamisarek avait déjà été nominé par les fans de.
Mais c'est ça, tu sais, ça y va vraiment plus avec la popularité de l'équipe et tout, là. Puis le monde s'était dit, on va essayer d'embarquer ce joueur dans le match des étoiles, et c'était un défenseur.
Fitzpatrick,
exactement. Donc, tu sais, il faisait à peine l'équipe dans ce temps-là. Puis justement, le monde se sont dit, on va voter pour essayer de l'envoyer au match des étoiles. Donc, c'est la réalité qui arrive quand on laisse. Le public s'amusait avec le vote.
Et je crois que le nom du joueur, c'était Rory Fitzpatrick, si je me souviens.
C'est exactement ça, Maxime.
J'ai la mémoire de feu. J'ai aucune raison pourquoi. J'ai aucune idée pourquoi je me rappelle de ce genre de détails inutiles-là, mais je me rappelle. Anyway. Fait que c'est bon, les gars. Bon, situation.
Ouais, ben, peut-être une petite parenthèse, mais on va peut-être en parler plus tard. non, mais les Rangers, dans le fond, qui ont dehors Tortorella, on va en parler. Je me demande le vrai problème, ça serait pas Glenn Sater, qui aurait peut-être dû être changé. Mais on va sûrement passer.
Ça, t'as effectivement raison, mais quand même, Torto, j'aimerais ça qu'on en parle un peu tantôt. Ouais. Alright, les gars, c'est bon. Écoute, 30, on est à la 20, on débute la 29e minute de l'émission, à peu près. OK, good. Excellent. Fait qu'on va passer du côté immédiatement des super débats. Ouais. Je me suis arrêté sec pour la vie, hein, mais c'est pas grave. Parce que, nous, il n'y a plus de musique, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de jingle. Et ouais, je sais, ça fait dur mon affaire. C'est pas grave. Non, les gars, sérieusement, les débats cette semaine, j'aimerais qu'on commence. T'as dit Simon qu'on allait en parler. Bon, on va en parler drette là. Des
oh, nice.
Ouais. Fait que tu veux, écoute, tant qu'à ça, là, continue donc, pour faire quasiment un simili segway. Tu me parlais de Tortorella. On va en parler. On va parler de Tortorella en premier. J'aimerais ça que tu me dises parce qu'il a été congédié là, aujourd'hui. Hein?
Oui, il vient juste d'être congédié.
Fait que dis-moi donc, qu'est-ce que t'en penses? Tu me parlais que toi, tu trouves que le vrai problème, c'est pas lui.
Ben, je sais pas. C'est plus une question que je pose parce que c'est dur de savoir exactement un directeur général, tout ce qu'il fait, l'ensemble, surtout que c'est Rangers, c'est pas nécessairement proche, mais je crois que c'est quand même Glenn Sater qui a offert les gros contrats à Brad Richards, que Tortorella avait de la misère à jongler avec ce contrat-là et le joueur plus particulièrement. Mais c'est pas lui qui a décidé à la base de donner le gros contrat, donner cette opportunité-là et tout. Ça vient de plus haut. Donc, je pense un peu les Rangers, ce qu'ils pourraient avoir de besoin, c'est un peu comme que le Canadien. Qu'est-ce qu'on a eu cette année, un changement de A à Z, dans le fond, que directeur général, ça change, quelqu'un de jeune qui arrive, quelqu'un qui a des nouvelles idées, la nouvelle génération de directeur général et coach, puis dans le fond, Michel Therrien qui fait un retour, donc je pense que c'est vraiment, ils devraient changer plus que juste l'entraîneur, je pense qu'ils font juste repousser le problème à plus tard. Je pense que Glenn Sater, en ce moment, avait le choix, et il savait que s'il ne faisait pas un move comme ça, quelque chose d'un peu plus gros, c'est peut-être lui qui allait perdre son emploi. Donc, il a peut-être essayé de retarder ça puis se donner une deuxième ou une huitième vie.
Ben, qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça?
Moi, je pense que je suis pas d'accord avec ça. Je vais aller vraiment dans l'autre direction. Puis, selon moi, le style de jeu que Tortorella imposait aux Rangers, c'était pas fait pour être une équipe qui marque 2 buts par game. Je sais que Longvist est un des meilleurs goalers dans la ligue, mais tu peux pas te permettre de juste faire 2 buts par partie et que Longvist doit voler chaque partie 82 parties dans la saison, puis après ça, il devrait aller en voler 16 dans les séries pour gagner. Je pense que avec un meilleur entraîneur, un qui serait peut-être porté plus vers l'attaque, de l'attaque qui pourrait supporter son gardien, ça m'a un peu chicoté quand j'ai vu Tortorella. On se souvient avec le Lightning de Tampa Bay, il y avait un style vraiment de la contre-attaque, puis son gardien, qui était Cabiboulin.
Ouais, Cabiboulin.
Cabiboulin, dans ce temps-là, il était vraiment dans sa zone. Mais Longvist, c'est le genre de gardien qui peut être dans sa zone
tout le temps.
Donc, je comprends pas pourquoi il a vraiment imposé un style défensif à cette équipe-là, quand il y a des gros canons à l'attaque. Je pense qu'il y a un peu ce qu'il méritait. Et Glenn Sater, je pense qu'il va avoir quasiment un contrat jusqu'à temps qu'il ne voudra plus être là parce que après moi, il y a des bons liens dans l'équipe.
Ben écoute, moi, je suis un peu d'accord avec vos deux opinions. En fait, je vous rejoins un peu sur deux choses différentes. La première étant que si on prend John Tortorella, moi, je crois que John Tortorella ne coach pas de la... Il coach comme on devait coacher dans les années 90. Là. Il coach en dictateur. Des fois, ça marche. Ça marche surtout quand tu as des bons leaders. Tu sais, Ben, à Tampa Bay, là, t'avais le Cavalier, t'avais Brad Richards, t'avais Saint-Louis, t'avais André Roy, t'avais...
T'avais André Tchuk.
Dale André Tchuk. Je veux dire, t'avais un paquet de leaders. Là. Fait que tu sais, quand que le coach, il est juste un peu cinglé, là, les leaders se regardent, t'sais, écoute, toi, là, on va lui montrer qu'on est meilleur que lui, puis que t'sais, lui, dans le fond, peut bien parler, puis blablabla. Tu sais, je pense que les joueurs, entre eux autres, quand t'as beaucoup de leadership dans une chambre de hockey, ça se règle. Mais tu sais, du vrai leadership, là. Tu sais, du vrai leadership dans le sens que des gars qui sont capables de contribuer sur une base régulière, là. Pas du leadership à « je bloque des tirs à chaque game, mais je fais pas de points, puis je fais aucun repli défensif, puis je finis moins 5, puis on dit que je suis un leader, là. Mm. » Pour pas nommer de nom, mais bon, on reviendra là-dessus un autre jour. Mais ça, c'est le premier. Je pense pas que Tortorella avait l'équipe pour coacher de la manière que lui coach, c'est-à-dire en dictateur des années 90. La deuxième, c'est que je vous rejoins, c'est aussi que je rejoins Simon, là, ma deuxième opinion, je rejoins Simon là-dessus, c'est que je crois aussi que ça part d'en haut. Glenn Sater, un vrai gars de New York, je dépense l'argent, puis on verra après. Tu sais, je veux dire, c'est carrément ça, là, tu sais, je veux dire, quand on regarde les contrats, là, tu sais, je veux dire, quand tu sais pas,
Glenn Sater, c'est pas sûr comment il est directeur général. Regardez, il prend une feuille de papier et il dit Rick Nash, ok, il a eu tant de points. Ah, oh, ça, c'est super bon. 7,8 millions. Brad Richards, il a fait tant de points des dernières années. C'est un Conn Smythe, je le veux vraiment à New York. 6,6. Tu veux dire, hey, ça, c'est de la. Puis Ryan Callahan, c'est tout un guerrier, là. Mais à 4,275 000 par année. C'est quand même beaucoup, là. Tu sais, je veux dire, puis là-dessus, t'as juste 3 joueurs. Là, tu dépenses. Écoute, là, t'as 20 millions pour 3 joueurs. C'est énorme, là. Puis, écoute, je pense que c'est juste ça. C'est Glenn Sater, comme tu dis, Simon, là, c'est pas un gars de structure. C'est un gars qui regarde des feuilles de papier, là. Puis, d'après moi, il fait la même affaire qu'on fait, nous autres, là. Il regarde des stats, là, puis il dit, OK, t'as joueur. Puis là, il dit, oh, je le veux vraiment dans mon équipe, on va le payer cher. That's it. Ça prend vraiment comme une échelle salariale. C'est qui ton leader? C'est qui tu veux qui gagne le plus cher? Puis après ça, tu descends. Puis, à combien t'es prêt de mettre. Tu sais, je veux dire, il faut que tu connaisses tes joueurs. Tu sais, Rick Nash à 7,8, là, c'est pas vrai que c'est lui le leader de cette équipe-là. Puis c'est pas lui, c'est pas vrai que c'est un futur capitaine. Puis c'est pas vrai que ce gars-là est combatif en playoff. Puis il mérite pas cet argent-là. Fait que.
Je vais me défendre un peu. Ouais, mais je vais me défendre un peu. Dans le fond, moi, j'ai parlé contre Glenn Sater, mais jamais pour John Tortorella. Je l'aime pas. Je suis heureux qu'il a perdu. Ben, là, pas heureux, je souhaite de malheur à personne. Mais je suis heureux pour l'équipe des Rangers qui a décidé de changer de coach. Mais comme que je dis, je pense que c'est les deux qui devraient partir. Mais je pense qu'on se rejoint tous sur Tortorella.
Ouais, ben, selon moi, c'est lui qui l'a fait sortir de là. Ça n'a pas dû aider. Genre, il a scratché Brad Richard, qui est un ancien gagnant du Champ Smythe.
Ouais, mais Brad Richards avait quand même des mauvaises.
Ouais, je sais, j'en ai même parlé, j'avais mis dans mes softies, mais quand même, je pense qu'il aurait dû mieux le motiver qu'à le scratcher.
Non, ça, je suis d'accord avec toi. Il aurait dû mieux le coacher.
Ouais.
Parce que c'était un moment quand même, c'était la dernière partie avant qu'il soit éliminé. Donc, tu peux faire ça en début de série, il va peut-être comprendre le message, mais là, je comprends juste aucunement le message qu'il voulait y envoyer. C'était comme, ben, t'es assis, puis tu vas peut-être jouer pour nous l'an prochain si on perd.
C'est ça.
Ouais, c'est ça. Je sais pas. C'était peut-être maladroit comme décision de sa part. Oh.
C'est bon. Moi, j'ai un autre sujet qu'on dit. On parle pendant qu'on parle des entraîneurs. Là, puis je pense qu'on a fait le tour avec New York. Il y a quelque chose qui s'est passé hier. Puis que là, tout le Québec en parle. Là, c'est comme la nouvelle de quasiment de l'année. Là. Patrick Roy est devenu le nouvel entraîneur-chef. De l'Avalanche du Colorado. Puis moi, je vais vous poser la question. Est-ce que les gars, là, sincèrement, là, est-ce que vous croyez que c'est une bonne ou une mauvaise décision? Puis j'aimerais que vous me parliez de la... Si vous pouvez me parler de la conférence de presse un peu, qu'est-ce que vous avez trouvé de tout ça? Là? J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Patrick Roy ou...
Ben moi, personnellement, je pense que c'est bon. C'est bon pour Colorado. Il s'en allait pas nécessairement de nulle part, mais proche. Disons qu'il y avait de la misère dans les dernières années. Je pense qu'il avait besoin d'un coach jeune, puis un peu dans. Ben pas, ouais, sur un coach. Un peu dans le même principe que Guy Boucher, qu'est-ce qu'il avait amené. Je sais que son périple n'a pas duré très longtemps avec Tampa Bay, mais bon, je pense que c'est juste la petite flamme, puis tout le monde connaît le caractère de Patrick Roy. Je pense qu'il peut amener quelque chose, justement. Puis ce qui m'a retenu le plus pendant la saison du Colorado, c'est vraiment l'entrevue que Jean-Sébastien Giguère avait fait où est-ce qu'il parlait que les joueurs n'étaient pas toujours motivés. Ouais, ouais. C'est des fois, après la deuxième période, s'ils ne menaient pas la partie, ben ils allaient baisser les bras et tout. Puis Jean-Sébastien Giguère était vraiment tanné de ça. Mais je pense que Patrick Roy est la personne idéale pour que ça n'arrive pas.
Ils ne pourront pas faire ça avec lui.
Exactement, c'est la personne clé pour être sûr que le monde ne va pas se pogner le derrière. Mais d'un sens, c'est peut-être qu'il va en demander beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas trop sa façon de coacher. Ça va sûrement être un peu différent de ce qu'il faisait dans la Ligue junior majeure du Québec. Sauf que c'est à voir. J'ai peur que ça se ressemble un peu à ce que Tortorella y fait, mais peut-être un peu plus intelligent. Là, c'est sa façon de coacher des joueurs. Mais ouais, je pense que c'est une bonne décision, puis surtout qu'il va avoir un mot à dire sur les transactions et tous ces trucs-là. Je sais pas si c'est un vrai mot ou c'est juste qu'ils ont donné un siège puis il va écouter, mais d'après moi, c'est pas quelqu'un qui va s'asseoir puis pas parler. Je pense qu'il va pouvoir dire comment qu'il veut gérer son équipe, puis c'est lui le coach, il sait qu'est-ce qu'il a de besoin directement. Je pense que ça pourrait être un plus, c'est peut-être même un principe que plusieurs équipes pourraient regarder pour le futur, là.
Ben.
Okay. Moi, de mon côté, ben, je suis vraiment très intrigué de voir qu'est-ce qui va se passer au Colorado cette année, ben, l'année prochaine. De ce que j'ai compris, c'est que Patrick Roy, il va avoir. C'est lui qui va faire les transactions. C'est lui qui va parler avec les autres GM de la ligue pour échanger ses joueurs. Sherman, c'est lui le vrai GM, mais il va juste faire comme le papier. Là. C'est lui qui va écrire les transactions et tout ça. Mais ça serait Patrick Roy qui aurait pas le dernier mot, mais c'est lui qui irait négocier avec les autres équipes. Donc, ça va être drôle. Mais ça va être intéressant de voir comment il va agir avec cette opportunité-là de pouvoir coacher des joueurs, mais en même temps, de pouvoir les remplacer ou d'aller en chercher d'autres s'ils font pas son affaire. Selon moi...
Je crois qu'il va être en duo avec Joe Sakic. Ouais, je me rappelle que les deux ensemble vont appeler les autres.
Ouais, puis ben en regardant la conférence de presse hier, tu regardais Sherman, Sakic, puis Roy, puis tu le voyais, c'était qui le boss d'un trois.
Ouais. écoute, je peux-tu renchérir là-dessus, moi, Ben?
Ouais, vas-y.
Moi, là, je regardais la conférence de presse là, hier, là. Puis j'ai donc trouvé que ça avait de l'air broche à foin. Premièrement, là, Joe Sakic, là, puis écoutez, moi, là, c'est... Tu sais, je veux dire, quand t'es un joueur de hockey, c'est une chose, OK? Mais quand que dans ton rôle administratif, quand tu fais partie d'une organisation d'équipe de... Quand tu fais partie d'une organisation de hockey de la Ligue nationale, c'est d'observer les talents, c'est de t'assurer que tous les petits détails sont en place pour que ton équipe aille bien. Quand je vois Joe Sakic assis sur le podium, avec la tête qu'il avait, premièrement, hier, il avait l'air d'un gars en troisième phase terminale du cancer. On dirait que c'était mis les cheveux, on dirait que c'était peigné les cheveux avec le restant d'huile d'une friteuse. Je me dis, mais my God! Puis tu sais, honnêtement, là, je dis pas ça pour être méchant. Là.
J'ai peut-être une opinion à dire sur ça, sur Joe Sakic, sans vouloir trop t'interrompre, mais tu sais.
Vas-y.
Tu regardes Joe Sakic, c'est quand même le gars qui a mis sa main dans une souffleuse pour essayer de la réparer, ben, puis il s'est blessé à la main comme ça. Là.
Ben, c'est ça, je me suis dit, Ben. Moi, je le connais pas personnellement, Joe Sakic, puis il y en a qui vont dire l'habit ne fait pas le moine. Mais moi, je sais que t'as juste. Généralement, le langage corporel de quelqu'un, là, ça te permet de te dire à peu près quel genre de gars t'as devant toi. J'ai aucun doute que Joe Sakic est un gars avec un grand cœur dévoué, puis que ce gars-là fait un paquet d'efforts. Par contre. Écoute, dans un rôle administratif où c'est que son rôle, c'est de gérer des petits détails et de s'assurer que tout est en place pour que tout soit parfait, quand le gars a de la misère à s'habiller puis il a de la misère d'avoir de l'air de quelqu'un de normal à TV, là, il avait de l'air de... Écoute, il avait de l'air d'un gars sur le bien-être social avec un suit. Je sais que c'est quasiment méchant ce que je dis, mais ce que je veux juste illustrer par là, c'est que je me disais, my God, j'avais l'impression de voir... un autre genre de Bob Gainey. Tu sais, Bob Gainey, là, c'est un super bon gars. Il a fait un paquet d'affaires, mais c'est pas un gars administratif. Puis je pense pas que Joe Sakic est un gars administratif. Puis je sais, tu sais, je sais pas quel pouvoir qu'il va avoir, mais j'espère qu'il n'en aura pas gros parce que je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il va prendre des bonnes décisions tant que ça. C'est
ben... Non, mais il a tout le temps eu l'air de se gêner. Puis en même temps, tu sais, il a pas l'air de la... Je ne veux pas juger, mais il y a probablement une lumière.
Ben, c'est carrément ça. Puis c'est ça que ça m'a vraiment donné comme impression. T'sais, ça ne remet pas en doute que je suis sûr que peut-être c'est un super bon père de famille, puis qu'il prend soin de sa femme, puis tout, puis que c'est un super bon gars, puis tous ses amis l'aiment. Là. Mais juste par rapport au bras, au poste qu'il va occuper, il n'y a pas de l'air de lumière. Puis Joss, c'est qui l'autre? C'est le Sherman? Là, c'est
ouais, Sherman.
Qui est directeur général. Non plus, lui, il n'a pas de l'air, tu sais, comme tu dis, Ben, là, on savait c'était qui, c'était le boss, c'était Patrick Roy. Puis encore là, tu te dis, aïe, aïe, ces deux gars-là, on dirait qu'ils sont pas sûrs de leur affaire. Puis qu'ils ont dit, ah, oh, tiens, on va prendre Patrick parce que c'est un bon leader. Mais, tu sais, selon moi, ça prend plus que ça. Oui, tu peux être un bon leader, mais il faut que. Tu sais, c'est pas juste ça, là, en termes que GM, c'est. T'es-tu capable de voir les petits détails? T'es-tu capable d'évaluer tes joueurs correctement? T'es-tu capable d'avoir des bonnes relations avec tes joueurs, puis le personnel, puis les autres GM? Puis je suis pas sûr que Patrick Roy est tant l'homme de la situation que ça.
Non, mais.
C'est mon point de vue. Excusez,
moi, je vous trouvais pas fin dans tout ça. Là. Vous avez utilisé des termes qui ont froissé mes oreilles.
Hein. Non, mais.
Non, mais sérieusement, là, je pense avoir vu Joe Sakic hier. Là, je ne sais pas, là, c'est vraiment ridicule, puis je me sens niaiseux de le dire, là, mais on dirait que si quelqu'un avait à jouer dans un film, je verrais parfaitement Russell Crowe le jouer. Je sais pas, il me semble qu'il fit très parfait là, avec, la coupe de cheveux pis tout, là. Je le verrais le jouer.
Non, mais tu saurais pas qu'il y avait de l'air malade? Écoute, il y avait
vraiment... Ben, c'est ça. Mais moi, il me semble que je verrais Russell Crowe essayer de réparer sa souffleuse en mettant son bras dedans. Mais je sais pas. Il me semble que ça fitterait, là. Ça. Ah,
pis, surtout, c'est quoi exactement son rôle à Joe Sakic?
Mais là, moi, il est comme vice-président exécutif des opérations, puis écoute, mais il y a un autre...
Je pense qu'il répare les Zamboni aussi à main nue.
Ça veut dire qu'il va aller chercher le café à Patrick Roy. Donc.
Ben, je pense que ça va être quasiment ça. D'après moi, il est là parce que c'est Joe Sakic, genre.
Ouais, il est là pour donner une belle image après la saison de mort qu'il vient juste d'avoir.
Mais en tout cas, j'espère.
Non, moi, je suis pas d'accord. Je suis sûr qu'il va faire un bon travail. Je veux dire, il a quand même été capitaine. Ils n'ont pas donné ce titre-là quand il était avec l'équipe. Hein. Pour rien, je pense que c'est un leader né. Je pense que, justement, il va attirer le monde vers lui. Il va avoir le côté un peu plus humain envers les joueurs.
Mais c'est ça. C'est correct. Mais faut pas qu'il prenne des décisions hockey dans le sens où on échange notre premier choix. Là. Je veux dire,
Ouais, mais tu sais, on ne sait jamais. Peut-être qu'il est super bon. Pis,
ben, c'est ça qu'il a dit, non?
Il a vieilli, mais il a vieilli dedans ce métier-là. Pis, tu sais, il en a vu des joueurs d'un bord puis de l'autre. Je pense qu'il peut savoir. Puis avoir été capitaine, en général, quand tu es un capitaine, tu es quand même axé avec quelques exceptions près, mais t'es axé quand il y a des nouveaux jeunes qui arrivent dans l'équipe ou quoi que ce soit.
Oui, mais ça, c'est bon, c'est pas parce que tu travailles dans la construction que t'es ingénieur, là. Tu sais, je veux dire, tu comprends ce que je veux dire, là?
T'sais... Je sais, mais je veux juste dire que moi, je leur donne le bénéfice du doute. Ils ont donné sûrement que... Je sais pas. D'après moi, c'est parce qu'il y avait quelque chose, pas juste parce que le directeur général, il a comme peut-être besoin de quelqu'un pour ce poste-là. Hey, Joe Sakic m'a donné son CV. Je le trouvais bien fin. Puis le monde connaît son nom. Moi, le mettre là.
Ben, honnêtement, je suis sûr que c'est ça. Puis je suis sûr que Joe Sakic a accepté pour la seule bonne raison que Joe Sakic, c'est un gars qui refuserait pas ça. T'sais, dans le sens un peu comme Réjean Houle, là, quand ils ont offert le poste de DG à Réjean Houle, là, on s'entend-tu que Réjean Houle n'a pas l'air d'un gars qui est capable de gérer une équipe de hockey? Là. T'es un super bon gars, puis on l'aime tous, là. Mais je veux dire...
C'est un bon joueur, mais tu sais...
Tu ne mettrais pas à tête une équipe de hockey, là, tu sais, je veux dire. Puis, Réjean Houle, quand il a accepté, il a dit, j'ai accepté parce que quand le Canadien t'offre ça, tu ne refuses pas. Mais je pense que c'est la même chose. Joe Sakic a dit, ben, si l'Avalanche offre ça, je refuse pas. C'est un capitaine, c'est un gars... Tu comprends, tu sais, c'est un bon soldat. Fait qu'il a dit, ben, certains... En tout cas, moi, j'ai l'impression
que
c'est plus... Ben,
je comprends, mais je suis pas sûr. Je pense que... Mais comme que je dis, moi, je vais donner le bénéfice du doute. Je vais lui laisser sa chance sans le juger. Je suis sûr qu'il t'a apporté quelque chose d'excellent. Puis, il est pas directeur général. Donc, tu sais, je pense que, justement, il a le poste parfait que... Qu'est-ce qu'il faisait en étant capitaine? Justement, un bon leader, tout. Puis, s'assurer que le monde y aille bien. Puis, voir les faiblesses des joueurs. Puis, un peu, tu sais... D'après moi, ça va être un peu... Il va être en haut de Patrick Roy, mais ils vont être un peu sur la même échelle. Patrick Roy va être plus le coach, mais lui, il va être là, puis il va aider quand même. Tu sais, je pense que ça va aider l'entourage de l'équipe. Puis, c'est un système qui essaye, puis je pense pas qu'il y ait vraiment d'autres équipes qui utilisent un système semblable. Faut l'essayer pour savoir si ça fonctionne aussi. Là, ça.
Mais personnellement, peut-être que je l'aurais plus vu ambassadeur avec l'image qu'il me donne.
Ouais,
mais aussi. C'est dur de juger sans être là, sans y parler, genre, puis tout ça. Donc,
ben c'est ça, tu sais, on ne connaît pas vraiment personnellement. Tu sais, on connaît son image, qu'est-ce qu'il a projeté. Mais, tu sais, je sais pas. Je pense qu'on va attendre une année, puis on va voir après qu'est-ce que ça donne. Puis,
mais quand j'ai vu ça, honnêtement, je me suis dit, wow, hey, on a-tu bien fait ça à Montréal? Jeff Molson, as-tu fait une super bonne job en engageant Marc Bergevin? Puis après ça, avoir le personnel embauché, j'ai bien hâte de voir. Tu sais, Marc Bergevin, on a entendu, là, ils ont embauché tes gars. J'ai hâte de voir Patrick Roy va s'entourer de qui. Puis j'ai hâte, pour moi, là, présentement, parce que présentement, pour moi, là, Patrick Roy, là, au Colorado, c'est une solution à court terme et non pas à long terme. Ce gars-là, présentement, là, on dit, OK, on a besoin de vendre des billets. Puis là, il va faire son speech pendant un an de, moi, j'ai du caractère, puis j'ai gagné la Coupe Stanley, puis là, ça va peut-être fonctionner, là. Mais... Je sais pas, j'ai hâte de voir. Puis écoute, j'espère que je me trompe, puis je dis pas ça pour être méchant, c'est juste, c'est vraiment l'impression que ça m'a sauté dans la face, je me suis vraiment dit ça, j'ai dit, pas sûr. Puis c'est pas pour être défaitiste, quand j'ai vu Marc Bergevin arriver, je me suis dit, ah, ça a de l'allure, c'est structuré, ça a du bon sens, on fait attention aux détails, on est précis, on dit pas de bullshit, excusez le terme. Puis écoute, peut-être que je me trompe, peut-être que dans 5 ans, Marc Bergevin ne sera plus à la tête du Canada, elle sera plus DG, puis que Patrick Roy va lever la Coupe cette année deux fois d'ici ce temps-là, mais bon, c'est l'opinion
que
j'en ai.
Puis, ben, ce que je trouve intéressant également, c'est que son contrat n'est pas garanti, donc il peut s'en aller sans se faire payer.
Ah ouais?
Donc, ouais, ah, fait que d'un coup, je pense que c'est une petite porte de sortie si ça va mal ou si Québec a une équipe dans la Ligue nationale en bout de ligne.
Oui, non. Ouais, non puis,
je pense que mais même le Canadien, quand on a fait un peu plus la restructuration, il y a Patrice Brisebois qui a eu un poste développement des joueurs ou quelque chose. Puis je pense que il y a eu deux autres anciens joueurs. Est-ce que ça se peut, Mike Johnson? Je ne sais pas.
Il y en a vraiment beaucoup.
Martin Lapointe.
Et Donald Odette.
Exactement, mais tu sais, on donnait vraiment un gros truc à des anciens joueurs. Donc, je ne sais pas. Peut-être que le poste à Colorado, ils ont offert à Joe Sakic, qui est un peu plus gros que les postes que nous, on a offert à nos anciens joueurs. Mais tu sais, je ne vois pas en quoi que... Parce que là, tu parlais tantôt que les Canadiens ont bien fait ça et tout, mais ils ont donné plein de postes à des anciens joueurs qui... Ils font
ouais,
ce métier-là pour une
c'est
première
rôles,
fois.
C'est pas dans des rôles de décision. C'est dans des plus dans des rôles de coaching.
De développement.
En même temps, c'est le terme qu'ils ont donné au poste à Joe Sakic, mais est-ce que ça va vraiment être aussi intense que ça? Est-ce que c'est vraiment les décisions ou c'est plus il va puis il faut quelqu'un, on va dire le directeur général... donne son, je vais dire en anglais, parce que son approve stamp, là, son tampon qui approuve, dans le sens que peut-être que dans le fond, il fait tout, mais en bout de ligne, c'est quand même le directeur général qui va avoir le dernier mot.
Ouais.
Donc, tu sais, je pense que c'est ça. Les Canadiens aussi, ils ont donné beaucoup de chance à des anciens joueurs. Puis moi, j'ai trouvé ça excellent. Je trouve ça vraiment, vraiment bon parce qu'ils ont connu la réalité du jeu puis de la Ligue nationale. Mais je pense que pour le Colorado aussi, c'est un peu semblable. C'est sûr que c'est un poste un peu différent. C'est plus des décisions. Mais je pense que, justement, c'est un test qu'ils font de leur côté aussi, comme que nous, on a fait pour certains postes. On va voir ce que ça va donner. Nous, cette année, ça s'est bien passé avec ça. Ben, en fait, je ne sais pas à quel point les joueurs se sont improvement. Là. Ils se sont améliorés pendant l'année dû à la job de Martin Lapointe, Patrice Brisebois et tout, mais... C'est ça. Il n'y a pas eu de mort. Fait que, je veux dire,
ouais, non,
ça doit s'être bien passé, là, j'imagine. Là.
OK. Ben, c'est bien beau. Écoute, juste avant de terminer, les gars, puis de s'en aller aux médias sociaux, j'aimerais savoir vos prédictions pour la ronde numéro 3 des séries. Là, je sais que présentement, Chicago et Détroit vont s'affronter dans quelques minutes. Mais quand même, j'aimerais avoir face aux Kings, là, qui... Vous avez le droit pour prendre pour soit pour Chicago ou pour Détroit, peu importe. Là, ça, admettons.
Je pense qu'on est mieux de donner les deux opportunités. Ouais. Là, peu importe lequel. Moi, on va avoir nos prédictions officielles avant que les parties commencent.
Je suis d'accord.
Moi, je peux commencer. Ça va me faire plaisir.
Oui.
Ben, je vais commencer avec Pittsburgh, Boston. Mm-hmm. Moi, je vais le donner à Boston en 7. Hein.
Ça, c'est facile de prendre ça en 7 parce que c'est ça que, à un moment donné, la série, il faut qu'elle ait limite. Ça, c'est les choix faciles, mon Brunette.
Ouais. Hey Max, là, t'as quand même dit Détroit en 7, là, la dernière ronde. Ouais, je sais pas, là.
I'm teasing you, je te taquine.
C'est correct. Sinon, on va dire que les Kings affrontent Chicago. Je vais y aller avec Chicago en 6, ça.
Oh.
Ouais, ouais. Mon équipe, ça. On connaît une grosse saison. Ils vont continuer. Puis si c'est Détroit, je vais y aller avec Los Angeles en 4, parce que je n'aime pas Détroit.
OK. Ben.
D'accord, ben moi, je vais y aller avec les Pingouins en 6. Je crois que c'est leur dernière année pour faire un gros boom. Avec la masse salariale qui va descendre l'année prochaine, je pense que c'est ils peuvent pas se permettre de pas gagner cette année. Ils sont été pour le tout, avec tous les échanges qu'ils ont fait. Puis, je pense qu'ils vont aller J'ai dit que les Kings allaient gagner. Puis de l'autre côté, je pense que malgré que ce soit Chicago ou Détroit, les Kings vont passer à travers eux. Ils sont trop bien bâtis pour perdre.
Moi aussi, je suis d'accord avec ça.
Puis ça va être une finale de Pingouins contre Kings, selon moi. Et
donc,
j'irai avec les Kings en 7. Ils vont aller à une deuxième, septième partie. Depuis très
longtemps. Donc peu importe l'équipe qui affronte, ça serait Kings en 7, toi.
Ouais.
Parfait.
Moi, je vais prendre. Les Kings en 6. Puis je vais prendre... Ah, ça, j'hésite en tabarouette. Boston, qui a eu plus de repos? Boston ou Pittsburgh, ou les deux ont le même repos?
C'est assez similaire. Hein?
Je vais y aller avec Boston en 6. Parce que je pense que Tuukka Rask est de loin bien meilleur que Thomas Vokoun. Mais ça, c'est... Écoute, je peux peut-être me tromper, mais je vais y aller avec... Écoute, je... Moi, avec Boston en 6. Fait que Boston en 6, j'ai King.
J'ai adoré, Max, les deux fois où est-ce que tu as hésité, rendu au nombre. Là, je suis sûr que tu as fait exprès pour ne pas donner de 7 parce que tu m'as teasé sur le 7. Là. Je l'ai senti dans ta voix et c'est pas Max.
Ouais, c'est vrai.
J'aimerais juste faire une petite parenthèse par rapport aux quatre dernières équipes. Là, on ne sait pas encore entre Détroit et Chicago. Dans le fond, si Chicago remporte ce soir, le top 4, dans le fond, les 4 équipes qui vont rester sont les récipiendaires. Ceux qui ont gagné, dans le fond, on va faire le mot complètement, ceux qui ont gagné les 4 dernières années, donc Pittsburgh 2009, 2010 Chicago, 2011 Boston, puis 2012 Los Angeles l'an passé. Donc, les 4 qui aspiraient au titre l'ont gagné dans les 4 dernières années. Puis si Détroit gagne, mais il l'a gagné en 2008, l'année juste avant. Donc, les 5 équipes qui restent sont les 5 dernières équipes à avoir gagné la Coupe.
Hein. Vive la parité.
Puis en fait, en plus, ce sont tous des équipes. Là, peu importe le même Détroit là. Mettons, tu mets Détroit, Chicago, Boston, Pittsburgh, puis Los Angeles. Je dis, ce sont tous des équipes qui ont bâti avec leur choix de repêchage.
Oui.
Puis qui ont focusé sur le fait que, sur leur core group, là, comment on dit ça en français?
Leur noyau.
Puis qu'en France, ils ont bâti avec ça. Fait que, je veux dire, c'est sûr que là, vous allez me dire, c'est plus facile de bâtir quand ton noyau est composé de Malkin puis Crosby. Ouais. Mais quand même...
Ben, il a fallu qu'ils touchent le fond, puis des fois, ça parlait que l'équipe allait peut-être perdre,
fait que,
allait
déménager. À quel tout, point c'est important, le repêchage.
Ils ont gagné une loterie dans une chambre fermée.
Ouais. Oh. Mais tu sais, quand on parle à quel point c'est important le repêchage, puis à quel point c'est important de... Excusez-moi. De bien développer ces jeunes, puis en même temps de bien les développer en tant qu'équipe, ben, la réponse est là, c'est que toutes les équipes en finale de la Coupe Stanley présentement, c'est ça.
Ah, en finale de la Coupe Stanley. Mais à Détroit que la plupart, c'est des choix de troisième ronde et plus haut. Donc, ils ont su avoir des recruteurs qui ont visé juste, dans le fond. Hein.
Ouais. Ben, c'est bien bon. Fait que, les gars, ça conclut pas mal ce qu'on avait à dire pour la fin de semaine. Pour la semaine. On va passer au dernier segment de l'émission. Les médias sociaux. Will you look at me? I have the power! En terminant, les gars, comme à l'habitude, hein, on va demander, on va remercier premièrement nos auditeurs et nos auditrices de nous écouter chaque semaine. C'est très, très apprécié. On va par contre vous demander, s'il vous plaît, écoutez, là, vous ne me voyez pas présentement, mais je suis à genoux. Oh oui, je suis à genoux. Je vous demande à genoux, s'il vous plaît, partagez-nous sur les médias sociaux, que ce soit sur vos Facebook, sur vos pages Facebook respectives ou sur Twitter. Ou s'il vous plaît, si vous pouvez en parler, là, faire du bouche à oreille, là, si on parle de hockey, là, je sais, là, présentement, c'est un peu plus dur parce que le Canadien n'est plus en série. Fait que, t'sais, nous, on fait juste parler des séries éliminatoires, pas mal. Mais quand même, on touche à pas mal de sujets. Tout. Puis, t'sais, si vous voulez une bonne alternative à certains réseaux ou certaines émissions de radio, ben, je pense que vous en avez une bonne ici. Alors, s'il vous plaît, partagez-nous sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous rejoindre sur Twitter pourquoi j'ai tout le temps arrobase? A commercial, le Pro Shop, en un mot. Ça, c'est moi. Si vous voulez venir me dire des commentaires, m'envoyer des messages privés, peu importe, me questionner, ça me fait plaisir de vous répondre. Sinon, vous avez A commercial Taupi, Taupy pour Benoît Brunette, et A commercial Simon Brunette, Simon Brunette. Ça nous fait toujours plaisir. On est quand même assez actifs ces temps-ci sur Twitter en ce qui concerne, en ce qui a trait les parties de Ligue nationale de hockey. Et je vous demanderai aussi de nous laisser un petit commentaire positif sur Twitter, sur iTunes, s'il vous plaît, et nous mettre 5 étoiles. Et Simon, quel genre de commentaire là, qu'on peut mettre sur iTunes là, de positif? Là?
Ben, il fallait écrire que c'est excellent, respectueux, divertissant surtout, qu'on se prend pas au sérieux. Dans le fond, on fait pas ça en espérant se rendre au plus haut du haut dans le niveau du hockey et de la radio et de la télévision et tout. On fait ça pour vous divertir, on fait ça pour vous donner un peu nos connaissances, une passion qu'on a, le hockey. On adore ça, regarder, s'informer et tout. Donc, on essaie de vous retransmettre ça. Donc, parlez-en, dites que c'est super divertissant, respectueux, c'est le fun, une belle gang aussi, on s'amuse. Justement, rien de trop sérieux, mais juste assez, là, on le déconne pas trop.
Non, c'est...
Ou le fameux A plus. Mais bon, on le conseille jamais, mais si vous avez vraiment pas le temps, là, mais ça peut quand même faire la job. C'est mieux de laisser un commentaire que pas en laisser. Puis si c'est le seul commentaire que vous voulez laisser, c'est temps accepté, ça va nous faire plaisir. Mais si vous pouvez donner quelque chose de super constructif qui va attirer les autres à nous écouter, on serait reconnaissant, là, vraiment gros.
Good. Bet.
Vous pouvez dire que je parle beaucoup puis je fais beaucoup de parenthèses aussi. Ça.
Oui. Ça, c'est pas grave. Ça. Écoute, des...
Faut pas le dire, c'est vrai.
Ben, est-ce que tu as quelqu'un à remercier en terminant?
Ben, personne en particulier, je vais pas mettre l'emphase sur quelqu'un, mais j'aimerais remercier tout le monde qui m'a donné des commentaires positifs et quelques-uns négatifs. Il faut quand même le dire. T'sais. On aime ça s'améliorer, fait que on les prend de chaque côté. Donc, continuez comme ça, continuez à nous écouter. On aime ça vous divertir, comme que on vous dit depuis 2 minutes quasiment. Donc, passez une bonne semaine, tout le monde. C'est mon dernier mot.
All right. Alors, on vous laisse sur le... Je vais vous dire un beau bye-bye. Hein? Amusez-vous bien ce soir pour avec la partie entre Détroit et Chicago. Et je vous laisse sur le mot de la fin à Simon Brunette, comme à l'habitude.
Je vais prendre les dernières secondes. Je vous supplie d'aller voter pour le cover d'NHL 2014. Trevor Lewis, s'il vous plaît. Merci tout le monde.